Hélène, de nature très curieuse, j'adore explorer, ressentir, rêver et comprendre le monde qui m'entoure. Avec ces podcasts, j'ai envie de vous inspirer, de vous inviter à prendre soin de la vie en vous et autour de vous. Au fil des épisodes, je vais vous proposer de rencontrer et découvrir des histoires de vie inspirantes, de découvrir et approfondir des sujets, vous donner des outils et des pistes d'action pour vous encourager à suivre vos inspirations, cultiver et nourrir le lien à vous-même, aux autres et aux vivants. Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à écouter que moi j'ai de plaisir à enregistrer ces contenus. Ensemble, prenons soin d'aujourd'hui et contribuons à créer un monde plus juste, plus doux, plus respectueux des ressources intérieures de chacun et chacune et de la planète. Et si nous créions de nouvelles manières de faire et d'être au monde ? Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler du burn-out en le resituant dans un contexte plus global, plus vaste. On va voir en quoi le burn-out peut refléter certains dysfonctionnements de notre société et comment ces dysfonctionnements peuvent impacter la santé jusqu'à être facteur parfois de burn-out. On va aussi parler de créativité et voir comment le burn-out peut être un point de départ pour un chemin de reliance à soi et au monde, et en quoi la créativité peut nous aider dans ce chemin de reliance à soi et au monde. Alors, cette thématique me parle tout particulièrement parce que moi-même, j'ai vécu un burn-out pendant plus de 2 ans. D'ailleurs, ce premier podcast sonne un petit peu comme un renouveau, une certaine renaissance pour moi. Je suis très contente d'avoir Nathalie Hanot aujourd'hui pour vous parler de tout ça avec moi. Voilà, alors Nathalie, bonjour.
Bonjour Hélène.
Bienvenue à toi. Tu es psychologue, auteur et formatrice. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire peut-être ce qui t'a amené à proposer ce que tu proposes aujourd'hui autour du burn-out ?
Oui, d'abord merci Hélène de m'inviter à réaliser ce podcast avec toi parce que c'est un sujet qui moi aussi me tient très à cœur puisqu'il a accompagné, je vais dire, les 20 dernières années de ma pratique professionnelle. Quand je me suis installée comme indépendante il y a 20 ans après un travail en hôpital, j'ai eu l'occasion de travailler pour un assureur qui m'a demandé de proposer des accompagnements créatifs à des personnes en burn-out qui avaient droit à cet accompagnement dans le cadre de leur assurance maladie. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de liberté, de latitude pour pouvoir envisager des accompagnements créatifs avec ces personnes. L'idée étant de ne pas faire la même chose que le psychiatre ou le psychologue que ces personnes rencontraient déjà. Donc l'idée, c'était vraiment un accompagnement psychosocial en plus de ce qui était déjà mis en place comme soin. Et c'était, je trouve, une belle opportunité, puisque le burn-out, et ça j'en suis vraiment convaincue, demande un accompagnement pluridisciplinaire. Donc dans cette demande de créativité, j'ai pu développer des ateliers avec ces personnes où pour moi, l'intérêt, c'était de se remettre en groupe, parce que le burn-out isole. Réapprendre à être avec l'autre, réapprendre à avoir des échanges avec l'autre. Mais je ne souhaitais pas non plus que ce soit des groupes de parole. Ça existait déjà, des groupes de parole, mais plutôt des groupes où on pouvait entrer en dialogue avec soi-même dans un groupe contenant. Et le travail avec le journal, où je travaille avec l'écriture, le dessin, le collage dans le journal, permet ce dialogue avec soi, de soi à la page, tout en étant dans un groupe. Et pourquoi la créativité ? Parce que ces personnes-là, le burn-out, la définition du burn-out, c'est toute l'énergie vitale a été brûlée, il va falloir la rallumer. Mmh. Et rien de tel que la créativité qui est la flamme de vie. Et à partir du moment où je suis en vie, je suis créatif, c'est de faire, de relancer ce mouvement créatif en soi par des techniques. Évidemment, les personnes ne sont pas seules face à la page blanche. Il y a des techniques bien précises pour aller progressivement à son rythme et dans beaucoup de bienveillance, redynamiser l'énergie vitale qui s'est éteinte à l'intérieur de soi.
Tu parles d'isolement et de l'importance du groupe. Alors moi, j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que moi, dans le cadre de mon burn-out, je me suis sentie fort isolée, en tout cas dans les premiers mois. J'étais dans ce qu'on appelle le déni, ça a duré longtemps. Je n'acceptais pas du tout mon état. Alors j'avais peut-être un orgueil mal placé entre guillemets parce que je me disais mais non, ça ne m'arrivera jamais le burn-out. Je pensais même, j'avais la croyance que c'était un phénomène de mode et je me disais je vais m'arrêter avant, c'est pas possible. Moi le burn-out ça ne m'aura pas. Sauf que c'est arrivé, j'ai pas vu les signaux, ou en tout cas si je les ai vus, je les ai pas écoutés. Et je me suis donc sentie fort fort seule au début, parce que dans mon entourage, il n'y avait pas grand monde qui avait vécu ce que je vivais. Et je me sentais incomprise aussi, j'avais peur de ce que pouvaient penser les autres, j'avais peur du regard des autres, et je me sentais incomprise dans le sens où je ressentais vraiment un mal-être assez profond et j'avais beaucoup de questionnements parce que je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais ou au travail on me demandait d'effectuer certaines tâches mais dans un contexte qui était insensé. Il y avait une espèce de course en fait au projet, toujours plus, et moi-même j'étais aussi, enfin j'avais tendance à vouloir toujours plus de projets, toujours être un peu partout. Parce que j'étais animée par un sentiment d'urgence aussi, donc il faut agir vite. Et donc j'avais l'impression que tout allait trop vite autour de moi. Les mails, je partais du bureau à 17h, je voulais être sûre d'avoir répondu à chaque mail, donc je répondais à chaque mail, mais le matin j'arrivais à 9h, j'en avais déjà une vingtaine, enfin les pires jours entre guillemets à 9h, j'avais déjà 20 mails dans ma boîte mail. Enfin voilà, je me sentais dépassée. Et j'avais l'impression d'être seule à vivre ça et je me disais mais c'est pas possible, si les autres y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas, c'est que je dois avoir un problème quoi. Et donc je me suis vraiment sentie fort isolée et d'ailleurs dans les premiers mois et même un peu plus, je me suis moi-même isolée parce que je ne voulais plus voir personne. Et jusqu'à ce que justement je rentre dans des groupes où on a pu échanger, en fait, où les personnes pouvaient échanger sur ce qu'elles vivaient. Et jusqu'à ce que je rencontre certains thérapeutes, dont toi d'ailleurs, qui replaçaient le burn-out dans un contexte beaucoup plus large, dans un contexte de société, et qui m'ont permis de relativiser, de me déculpabiliser aussi, sans me déresponsabiliser pour autant, en insistant bien sur le fait que nous vivons dans un environnement qui n'est pas neutre et qui a une influence fondamentale sur nous-mêmes en fait. Une influence qu'elle soit positive ou négative, mais on ne vit pas isolé, on est interdépendant de cet environnement, environnement social, environnement du travail. Et donc voilà, je sais que dans ton livre, le journal créatif du burn-out, tu parles de facteurs externes. Donc ces facteurs externes qui sont hors de notre zone de contrôle et qui favorisent le burn-out. Il y a des facteurs internes, mais on les abordera peut-être un peu plus tard. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces facteurs externes qui favorisent le burn-out et qui peuvent justement donner cette impression d'isolement aussi ?
Ok, alors déjà te dire que ce que tu as nommé en termes d'isolement, de retrait social, de jugement, de honte, de culpabilité, de sentiment de toute puissance sur laquelle on imagine de manière totalement illusoire qu'on peut maîtriser le temps, sont tous des facteurs qui précipitent vers le burn-out, voire même qui sont des symptômes annonciateurs du burn-out. Quand on commence à vivre cela, on devrait vraiment tirer la sonnette d'alarme et se retirer du jeu pour pouvoir un peu se poser. Parce qu'effectivement, on vit dans une société aujourd'hui où le maître mot, c'est la loi de l'économie, la loi du gain. On est dans une société du toujours plus, de l'exploitation exponentielle des ressources. Hein, la planète est elle-même en burn-out. Nous faisons partie aussi de ces ressources qui sont exploitées de manière exponentielle, où on en oublie qu'on a un corps qui a besoin de repos, qui a besoin de rythmes différents. On est dans une société où, en fait, tout ce qui a trait à la perte, au deuil, au manque, est annulé. Comme si nous devions vivre un éternel printemps, un éternel été, mais ne jamais aller vers l'hivernage, vers l'automne, vers l'hiver, qui sont pourtant des moments absolument cruciaux dans lesquels on peut se régénérer. La nature se régénère, composte, et c'est là que de nouvelles idées, que de nouvelles intelligences peuvent se développer, et puis on retourne vers un nouveau printemps qui est différent de celui de l'année précédente, et puis vers un autre été où nos projets culminent, et puis on se repose. Dans notre société aujourd'hui, c'est comme si cette descente dans l'hivernage était interdite et que l'on devait être en permanence dans un printemps qui pousse de nouveaux projets, qui pousse de nouvelles idées, qui pousse de nouvelles intentions, qui pousse vers de nouvelles réalisations de soi, tout le temps et tout le temps, même si les précédentes n'ont même pas été abouties. Mmh. Imagine dans la nature un éternel printemps, la nature brûlerait.
Mais oui.
Et c'est ce qu'on fait avec le corps et l'esprit humain.
Mmh. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que bah, voilà, je suis fort... J'étais fort impactée, et je le suis toujours, mais j'apprends la résilience. Je suis fort sensible à l'état du monde, et donc je me suis rendu compte que j'étais sujette à l'éco-anxiété, donc l'anxiété qui est vécue par rapport justement à ces crises environnementales. Et donc, par rapport à cette écologie, de manière générale, cette écologie environnementale, ça me parle parce qu'il y a l'écologie intérieure. Et donc, prendre soin des ressources de la planète, mais prendre soin aussi de ses propres ressources intérieures qui ne sont pas inépuisables. Et tu parles de... Tu parles de ces périodes d'hivernage, donc de ces périodes de repos, hein, comme la nature qui se repose en hiver. Ça me parle beaucoup parce que dans mon cheminement, moi, qui étais justement toujours dans le faire, toujours plus de projets, toujours plus, dans le cas du burn-out, je voulais absolument trouver une solution, n'acceptant pas mon état, et je voulais faire quelque chose à tout prix pour m'en sortir. Et je me souviens une fois, ma psychologue qui m'a dit « Mais il n'y a peut-être rien à faire, juste à être. » Oh, je te jure que quand elle m'a dit ça, j'avais envie de m'arracher les cheveux et j'étais en colère parce que c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. Mais non, j'avais pas appris en fait à juste être dans l'être. Et je trouve que cette société, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle encourage en fait, faire toujours plus, même dans le développement personnel, faites plus. Alors que finalement, il y a vraiment tout un apprentissage et un intérêt à revenir dans l'être. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Comment on fait pour être dans l'être?
Alors, déjà te dire par rapport à ce que tu as nommé de l'éco-anxiété, hein, mm-hmm. et donc de ce miroir entre cette planète en difficulté parce que nous la consommons trop et nous-mêmes en difficulté parce que nous nous consommons trop, c'est une réalité, effectivement, et qui place vraiment le burn-out comme un trouble miroir du fonctionnement de la société d'aujourd'hui, qui est une société du faire, du croître, et qui n'a rien à voir avec la croissance personnelle, par mm-hmm. contre. C'est plus dans l'avoir que dans l'être. Il y a le faire, il y a l'avoir, et puis il y a l'être. Et donc, ta résistance au début de ton burn-out à prendre du temps et à oser rencontrer le rien faire, c'était une résistance tout à fait légitime qu'on va rencontrer dans le chemin du deuil. Au début, je vais résister à ce qui m'arrive. Donc, je vais continuer, paradoxalement, alors que j'ai été arrêtée pour épuisement, à m'activer pour trouver comment, au plus rapidement possible, en mettant en place plein de stratégies, je vais pouvoir guérir et y retourner.
Vite, au plus vite.
Vite et retourner à ce que je faisais avant.
Ah, c'est ça, avant.
Alors que le processus, c'est vraiment une longue descente en soi-même pour recréer quelque chose après qui est autre.
Que l'avant.
Qui est autre que l'avant, évidemment. Les printemps diffèrent d'année en année. Il suffit d'observer la nature et puis d'apprendre l'écologie intérieure. Alors l'écologie intérieure par rapport à ton anxiété, la première chose que je dirais, c'est que si on regarde l'ampleur de la tâche, on va juste avoir envie de se replier chez soi, de fermer les yeux. Ça, c'est pas de l'hivernage pour moi, c'est juste du déni et du retrait. Mmh. L'hivernage, il est fait de compostage, de présence à soi-même, de réflexion intérieure. D'où, pour moi, l'outil que j'ai développé et que je trouve fabuleux, qui est de tenir un journal de son burn-out. Où, avec des pratiques, je vais pouvoir aller traiter là où je peux. C'est-à-dire, là où je peux, c'est dans mon émotionnel, dans mon monde intérieur. Je ne vais pas pouvoir trouver... je ne vais pas pouvoir, à moi toute seule, changer les défis planétaires. Mais si je peux déjà aller changer cette hyperconsommation de moi à l'intérieur, je fais déjà un pas pour la planète. Si je suis capable de retrouver du bon sens dans ma vie, je fais déjà un pas pour la planète ou bien pour même l'humanité. Si je suis capable d'aller trouver des espaces de sérénité en moi, sans doute que je vais consommer moins. Si je vais être capable d'aller calmer ce qui m'agite, très certainement, je vais consommer moins. Et je vais commencer à retrouver du sens à la vie, mais aussi à ma vie, mais aussi à la vie, avec un L, parce que je pense qu'une des réponses du burn-out, qui pour moi est presque, c'est faire preuve de santé, parfois dans la manière dont on fonctionne, que de faire un burn-out, pour le vivant, c'est de retourner à une simplicité volontaire. Des pratiques simples pour soi, et des postures simples, pour la planète. Mais voilà, ça demande... Si on regarde la tâche de manière totale, ça va être trop lourd. Et là, ça va générer de l'éco-anxiété. Mais si je me dis, je suis une petite planète à moi-même, qu'est-ce que je peux déjà faire pour la planète, ma planète à moi? Imagine, Hélène, que chacun fasse ça pour lui-même. Ce retour à un bon sens, ce retour à de la conscience, ce retour à du sens, ce retour à... En fait, on est là pour honorer notre vie. Hein. On ne reste pas si longtemps que ça sur cette planète. Autant faire quelque chose de bien de notre vie. Et voilà.
Un retour aux soins de soi aussi. Mais je trouve que ce que tu dis, c'est pas évident. Parce que, en tout cas, par rapport à ma propre expérience, ça a été fait de... Et je sais que ça va être le chemin de toute ma vie. Mais j'ai dû déconstruire pas mal de croyances et de pensées par rapport justement à ce mode de faire pour apprendre de nouveaux comportements qui n'étaient pas forcément innés, entre guillemets, chez moi. Et donc, ça a été au début... comment dire, ça a été difficile et même j'ai dû me faire violence, par exemple apprendre la méditation au début pour justement revenir à un calme ou à une espèce de sérénité. Alors je dis pas que tout le monde doit apprendre la méditation, mais moi c'est le seul chemin que j'ai choisi, c'est l'outil qui m'a appelée. Mais ça a vraiment été compliqué parce que je devais aller contre moi dans un premier sens. Et donc je trouve que ce retour à l'être n'est pas nécessairement quelque chose de facile parce que c'est des nouveaux apprentissages. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Tout à fait. Alors, je pense que ce n'est pas contre toi, mais contre tes constructions difficile. Ouais. Parce que ce qui était probablement beaucoup plus violent, c'est d'aller contre soi jusqu'à chuter en burn-out que de réellement aller à la rencontre de soi. Mais c'est un tel changement de paradigme que ça peut un peu désorienter. Il y a une carte dans le tarot qui parle très bien de ça. C'est la carte 16, la maison Dieu, où on voit une tour qui a été érigée, qui a été bâtie, qui a été construite. On nous apprend à monter les briques, on nous apprend à monter les tours, on nous apprend à avoir des projets, à les réussir, à les bâtir, à les construire et à s'élever dans cette tour. Et sur l'image, on voit à un moment donné un éclair qui vient faire s'effondrer la tour et deux petits personnages qui tombent. Cette carte, elle parle très bien du burn-out. Elle vient dire qu'à un moment donné, l'éclair, c'est ça, le jour de rupture. Toutes les personnes en burn-out s'en souviennent, le jour où elles n'ont pas pu aller au travail et où tout s'est déconstruit. Cette tour que j'avais érigée, elle est déconstruite par quelque chose qui, en moi, m'immobilise totalement et qui fait que je me retrouve jetée hors de la tour. Ce qui est important de se dire, c'est que dans cette tour qui était tellement élevée, tellement construite avec des pierres, c'est que le vivant n'avait plus sa place. L'énergie vitale était en train de brûler dans cette tour et de se consommer. On pourrait dès lors voir le burn-out, cette flèche qui vient ouvrir la tour, comme l'oxygène dont la flamme qui était en train de se consumer a besoin pour reprendre. Et les petits personnages, soit tu les vois comme étant « je suis jeté hors de ma vie »,« je chute hors de ma vie », Et si tu regardes bien, au pied de la tour, il y a un champ de blé. En fait, le burn-out nous ramène dans le vivant, nous ramène dans la nature dont nous faisons partie et nous ramène à un endroit où l'intention est de retrouver cette capacité de vie que nous étions en train de consumer dans une tour en béton qu'on érigeait. Et la guérison du burn-out, c'est de transformer cette chute en plongeon. Comment je vais transformer ce que je ressens au début comme une chute en un plongeon vers une vie plus juste, plus simple,
plus alignée,
plus consciente. Voilà. Alors la méditation est certainement un des outils qui va calmer à l'intérieur et qui va nous ramener juste à la présence de ce qui est. Mais toutes les techniques aussi d'expression. Pour moi, tenir un journal, c'est une forme de méditation créative qui, en plus de la méditation, va permettre que j'accueille, j'exprime et je transforme les émotions, que je ventile un peu toute cette agitation intérieure, mais aussi, avec une présence régulière dans ce type de pratique, va me permettre de développer mon intelligence créative. Parce que, quand même, quand on regarde l'histoire de beaucoup de burn-out, on finit par se demander « Mais comment je me suis laissée aller jusque-là ? Comment j'ai pas ouvert les yeux ? Comment j'ai pas réfléchi par moi-même ? Comment j'ai pas osé affirmer par moi-même que c'était trop ?» Il y a comme une espèce d'intelligence créative aussi qui s'est éteinte. Et il faut la rallumer pour pouvoir, de manière créative, se réengager dans un autre chemin de vie qui est plus respectueux et de soi, et du monde, et des autres.
Et justement, quels sont les facteurs ou qu'est-ce qui empêche qu'on s'arrête à temps, souvent ? Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'au bout, quoi ?
Mais je pense qu'on est bien drillé, on est bien façonné, on est bien coincé dans des croyances et dans des valeurs qu'on pense être des valeurs personnelles alors qu'elles sont juste des valeurs qu'on nous a introjetées. Cette espèce de quête de la perfection. Je serai quelqu'un de bien lorsque je serai parfait, nous fait faire n'importe quoi avec notre vie, parce que qui nous sommes, c'est déjà parfait. Il n'y a pas besoin de vouloir toujours plus, toujours mieux pour être reconnu. Il y a quelque chose, je pense, qui a à voir avec l'enfant intérieur et une espèce d'immaturité et de blessure de l'enfant intérieur qui fait que soit on se rebelle par rapport au système, soit on se soumet totalement et on en oublie d'avoir une expression d'adulte, d'état adulte. Donc l'enfant intérieur qui s'agite parce qu'il a des vécus personnels qui font que je n'ose pas m'opposer à un supérieur hiérarchique ou que je n'ose pas m'affirmer dans tel ou tel domaine de ma vie. C'est aussi important. Ça, c'est tout un travail intérieur qu'on va pouvoir faire pour aller calmer toutes ces parts de nous aussi qui ont été refoulées dans un système de vie, d'éducation, où on ne nous a pas appris à être, comme tu le disais très bien tout à l'heure. On apprend beaucoup ce que Chabot appelle le progrès utile. Alors le progrès utile, c'est vraiment les valeurs de notre société économique, scientifique, technocratique à laquelle on participe, où on va apprendre tout ce qui est utile à la croissance économique, à la croissance de l'avoir, etc. Mais on ne nous apprend plus le progrès subtil. Le progrès subtil, c'est apprendre à être. Et il relève beaucoup plus de l'initiation que des apprentissages de techniques. Et ce progrès subtil, on ne l'apprend plus. Et donc, le burn-out, quand tu disais dans l'introduction qu'il faisait partie d'un plus vaste, d'un contexte de société plus vaste, oui, évidemment qu'il dénonce aussi la manière dont nous éduquons les enfants, dont le système scolaire va privilégier certains types d'apprentissage, généralement liés au progrès utile, et nettement moins au progrès subtil. Or, c'est probablement ça, si on veut créer un nouveau monde, c'est de s'orienter et oser s'engager dans des pratiques qui visent le progrès subtil. Dans les sociétés amérindiennes ou dans d'autres cultures qui ne privilégient pas le progrès utile, il n'y a pas de burn-out. Donc c'est le burn-out, c'est une maladie miroir d'une société technologique, économique, qui privilégie l'exploitation à outrance des ressources bien plus qu'une vie en accord et en équilibre avec ces ressources qui devraient être équitablement distribuées et dans nos vies et entre nous et de manière planétaire.
Tu parlais du deuil, avec la courbe du deuil tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu associes le burn-out à un deuil ? Je sais que le deuil nous fait passer par plusieurs étapes. Il y a l'étape du déni, justement, et puis il y a l'étape, le moment où on chute, et puis où on touche le fond, et puis où on remonte de manière un peu progressive. C'est pas une remontée en flèche toute droite. Il y a le moment où on accepte pleinement notre situation, et puis le moment où on reconstruit. Et c'est là où ça devient, enfin, c'est là où la créativité va être intéressante, et c'est là où elle est intéressante c'est là où c'est intéressant d'aller mobiliser justement cette ressource créative. C'est pour reconstruire du neuf, pour nous éviter de retomber en fait dans la vie d'avant, cette vie d'avant qui nous aura mené droit dans le mur, mené jusqu'au burn-out. Est-ce que tu peux donc nous en dire un peu plus sur cette courbe de deuil et nous dire si chaque personne qui traverse un burn-out passe par ces différentes phases, donc de déni, de remontée, d'acceptation et de reconstruction. Mmh. Et aussi, selon toi, quels sont les enjeux justement de rebondir dans quelque chose de nouveau et pas de vouloir à tout prix revenir dans cette vie d'avant ?
Oui. Alors, personnellement, oui, je pense vraiment que le burn-out, c'est une histoire de deuil. Je pense vraiment que cette société où on n'accepte pas de perdre génère une maladie contemporaine qui s'appelle burn-out. La perte fait partie de la vie. La perte, on ne nous apprend plus à perdre. Et c'est important aujourd'hui d'apprendre à perdre parce qu'il n'y a rien de dangereux à perdre. C'est la vie. Demande à l'arbre à l'automne quand il lâche ses feuilles, s'il a un souci avec ça. Parfois, un petit exercice simple, c'est interroger les feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'elles pensent, elles, de la perte ? Alors, donc, le burn-out, un événement vient faire rupture. D'abord, je vais y résister. Et puis, il va y avoir tout un cheminement qui est fait d'états émotionnels différents pour aller vers ce qu'on appelle l'acceptation. Alors, pas l'acceptation de la chute, de l'événement douloureux ou de ce qui est venu vraiment nous rendre mal, mais accepter que ça me soit arrivé pour redire oui à la vie. Donc, dans l'acceptation, après dans le chemin du deuil, c'est dire oui à cette vie-là. Et c'est seulement parce qu'on fait ce cheminement par les différents états émotionnels qu'on va en conscience dire oui et clarifier ce à quoi on dit oui, qu'on va pouvoir donner du sens. Tu le disais au tout début, le burn-out, c'est une crise de sens aussi. Mm-hmm. Ne pas passer par la courbe et cette remontée d'acceptation, d'appropriation et de mise en sens, s'éviter la guérison du burn-out. Remonter à l'envers n'a rien à voir avec le processus vivant. Remonter à l'état d'avant n'a rien à voir avec le processus vivant. Ça, ce serait nier le deuil. Il faut se rappeler que le deuil, c'est un travail de mémoire. Plonger dans cette courbe aux différents états émotionnels, c'est une plongée en soi-même où, évidemment, je vais d'abord m'arrêter. Je vais devoir m'arrêter pour pouvoir faire cette plongée en soi-même et rencontrer les différents états émotionnels. C'est faire un travail de mémoire. Tout travail de deuil est un travail de mémoire. Je prends la mesure de ce qui m'arrive. Je prends la mesure de ce que je vis, j'en tire le sens, j'en tire l'enseignement, et c'est avec la mémoire de tout cela que je vais pouvoir honorer le chemin qui va me permettre une plus juste posture dans ma vie après. Si j'ai vécu tout ça juste pour remonter à ce que je faisais avant, comme avant, sans rien changer, c'est aller contre le vivant et c'est s'assurer une rechute.
Moi, j'avais une question ici. Est-ce que ça nécessite automatiquement un changement de poste, par exemple ? Ou est-ce qu'on peut retourner dans son poste d'avant et imaginer refaire ce qu'on faisait ?
Alors, idéalement, on dit que le burn-out, c'est une maladie de changement. Donc, idéalement, c'est un changement. Maintenant, la réalité de tout un chacun fait que parfois, le changement ne peut pas être opéré. Donc, il faut au moins installer des micro-changements. Si je retourne dans le même service, c'est peut-être avec des tâches différentes, un rythme différent, un horaire différent, des objectifs différents. Enfin, il y a des changements à opérer. Maintenant, en restant extrêmement vigilant, moi, ce qui retient quand même pas mal mon attention, c'est que les personnes, encore aujourd'hui, ont plus peur de perdre leur emploi que leur santé, voire même leur vie. C'est assez interpellant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça fait peur parce que voilà, il y a le besoin de sécurité qui est là. Ouais. Et puis, ça fait peur. Mm-hmm. C'est un plongeon réellement dans le vide, quoi.
Tout à fait. Et la peur fait partie des états émotionnels du deuil à travailler. Mm-hmm.
Cette courbe, ces phases d'acceptation, ces phases émotionnelles, en tout cas pour ma part, bon, c'est pas confortable à traverser, mais je trouve aussi que ça prend du temps. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou encore une fois, ça va être une réalité peut-être qui va être différente en fonction de chacun, mais pour ma part, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, presque, je disais, 2 ans. Est-ce que c'est une réalité pour beaucoup de gens ?
Oui, sincèrement, ça prend du temps et les 2 années, elles sont assez, je trouve, dans la moyenne. Mmh. Mais ce n'est pas que du temps. C'est pendant ce temps-là, je m'engage dans un processus.
C'est ça.
C'est pas juste laisser le temps passer, c'est s'engager dans un processus. C'est d'abord commencer par se reposer, puis accueillir ce qui se passe en soi. On parlait des différents états émotionnels, se rappeler que nos émotions, c'est probablement les meilleur guide avec notre corps sur comment mener notre vie. Les émotions, elles nous demandent un mouvement. Mais pour cela, il faut pouvoir d'abord les accueillir, les exprimer, les comprendre et puis, avec clairvoyance, voir l'invitation qu'elles nous invitent, l'invitation que suggèrent ces émotions pour notre chemin de guérison et nos chemins de vie. Mmh. Alors, j'ai bien conscience aussi, ici, je suis en train de parler de la phase plus personnelle, les facteurs personnels dans lesquels je peux m'engager faire évoluer ma guérison. Mais je rappelle que la véritable guérison, elle ne viendra pas juste d'un mouvement personnel. J'espère vraiment, et on l'observe quand même de plus en plus, que c'est une invitation aussi, ce burn-out, à aller vers beaucoup plus de co-création, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de fraternité, et que la véritable guérison de cette maladie miroir, elle passera par des projets de co-création et de fraternité et de solidarité. On ne peut pas guérir de ça seul.
C'est ça. Alors, c'est important de dire que donc ces facteurs, comme tu dis, personnels, ils sont dans notre zone de contrôle, on peut agir dessus. Et puis, il y a ces facteurs peut-être externes qui sont plus sociétaux, etc., sur lesquels on a peut-être moins de contrôle. Et donc, de ne pas se mettre trop de pression à vouloir justement agir là où on n'a pas de prise, mais se concentrer sur là où on peut agir. Et faire des petits pas en ce sens, quoi.
Mais complètement, tout à fait. Déjà, une des postures dont il faut faire le deuil, c'est le perfectionnisme.
Et je vais sauver le monde.
Et je vais sauver le monde, effectivement.
Je peux sauver le monde à moi toute seule sur mes petites épaules.
Et je dois être en haut de la montagne tout de suite.
C'est ça.
Non. Ça, ce sont déjà des exigences personnelles qu'on peut laisser tomber.
Mm-hmm. Et c'est tout un apprentissage, justement, à revoir ces exigences.
Tout à fait. D'où l'importance d'avoir des outils et surtout des pratiques quotidiennes de présence à soi. Parce que ça s'apprend. La méditation en est une, le journal en est d'autres. Mais vraiment, l'importance d'avoir des outils de pratique d'hygiène psychique. L'hygiène physique, on la connaît. On nous a appris à avoir une hygiène du corps, on nous a appris à faire du sport, à bien s'alimenter, mais on ne nous apprend pas l'hygiène psychique.
Non.
L'hygiène psychique, c'est vraiment un endroit où il faut aller au quotidien. Comme on se brosse les dents, on prend un temps avec son monde intérieur, si on veut rester en vigilance de son équilibre de santé quand on l'a retrouvé.
Alors, tu as déjà dit pas mal de choses, mais en quoi consiste, selon toi, un parcours de guérison ? Tu as déjà dit pas mal de choses, etc. Mm-hmm. Mais
Moi, je pense qu'un parcours de guérison, il va débuter par un arrêt.
Mm-hmm.
J'accepte de m'arrêter. J'accepte aussi de voir la dette de sommeil que j'ai contractée pendant toutes ces années. J'accepte de dormir. J'accepte de ne plus être performant. Donc d'abord l'arrêt, vraiment l'arrêt. Et puis il va y avoir toute une rencontre de ce qui nous agite, comme les jugements. Et tu sais comment ça s'écrit vraiment, hein, le mot jugement.
Le juge qui ment.
C'est le juge qui ment, effectivement. Les jugements, la culpabilité.
Les jugements, tu veux dire, excuse-moi, qu'on peut avoir de soi envers soi ou
oui, de soi à soi, et puis alors de soi sur le monde, évidemment.
Tu peux nous donner jugements... un exemple, par exemple.
Oui, ben, nos jugements, ils sont essentiellement des projections. Mm-hmm. Je vais... juger ma collègue qui est en arrêt burn-out en disant « Ouais, mais bon, moi, je suis quand même là. » Ou un indépendant qui va dire « Moi, comme indépendant, j'ai pas le choix de faire un... Je peux pas être en burn-out. » J'entends dans ce jugement l'épuisement de la personne qui le dit et de sa crainte, elle aussi, on appelle ça tomber dans un burn-out ou de réaliser qu'elle est effectivement en train d'épuiser toutes ses énergies vitales. Mais le jugement de soi aussi. Je m'en veux, je suis coupable, je ne suis pas assez performant, j'aurais pu prévoir, j'aurais dû anticiper, et ça fait de moi quelqu'un de moins bien, qui n'a pas été vigilant,
j'aurais dû m'écouter, et blablabla,
et blablabla, et blablabla. Tout ça, ça traduit quoi ? Cette culpabilité qui ne sert personne, hein. La culpabilité ne sert à rien. Autant tantôt, je te disais, les émotions, elles nous indiquent un mouvement à avoir vers la guérison, autant la culpabilité, elle immobilise. Mm-hmm. Il y a zéro mouvement dans la culpabilité. La culpabilité, c'est un peu ce qui nous empêche d'aller toucher à notre impuissance. Si c'est intéressant quand on a tendance à être avec beaucoup de pensées culpabilisantes, d'aller plutôt se dire, mais... Et si j'acceptais qu'en fait, j'étais impuissant ou je suis impuissant, toucher à son impuissance, c'est toucher le fond de la courbe dont tu parlais tout à l'heure et c'est de se dire, mais oui, je n'ai pas la maîtrise de tout, je n'ai pas le contrôle de tout. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes impuissants, on n'est pas Dieu. Par contre, au lieu d'être coupable, je peux être responsable. Et dans responsable, il y a response, c'est quelle est la réponse que je vais donner à ce qui est aujourd'hui en train de m'arriver. Et là, on retrouve une capacité d'action. C'est quelle est la réponse que je vais donner ? La première réponse, c'est je m'arrête. La deuxième réponse, c'est j'accepte de me reposer. La troisième réponse, j'accepte de me faire aider. On ne sort pas d'un burn-out seul. Le burn-out nécessite vraiment l'intervention d'un accompagnement psychologique, de groupe, de mise en mouvement. Donc, j'accepte de me faire aider. Et puis, je pratique. Pour moi, la guérison... bien est une affaire beaucoup plus de pratique que de volonté. C'est j'ai la volonté de guérir, non, ça ne marchera pas. Mais je peux placer ma volonté sur mes bonnes pratiques. J'ai décidé que je méditais 5 minutes par jour. J'active ma volonté au moment où je me dis « Ah non, je n'ai pas envie de méditer aujourd'hui. » Non, non, j'ai décidé, je le fais, je médite. Et c'est la méditation de 5 minutes en 5 minutes qui amènera... qui aura un impact après sur l'état de santé. La même chose pour la pratique du journal, la même chose pour je décide d'aller marcher une demi-heure par jour. La nature est un magnifique endroit de guérison aussi. Donc c'est de pratiquer. Je pratique ma rencontre avec la nature. Et c'est parce que je la pratique régulièrement et quotidiennement que je vais voir comme mes promenades à un moment donné viennent impacter mon équilibre de santé. Donc, les bonnes pratiques font partie pour moi de la pierre angulaire de la guérison. Mmh.
Tu parlais de sens. Comment... Alors, je ne sais pas si tu as la réponse à ça, parce que c'est peut-être compliqué, et qu'il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte, mais comment on fait pour retrouver du sens ?
Alors, le sens, c'est vraiment le bout de la courbe du deuil. Donc, j'accepte d'aller rencontrer et de prendre le temps de rencontrer des émotions telles que la colère, telles que la peur, telle que la tristesse, de réfléchir à ce que peut être l'acceptation, à quoi je vais dire oui dans ma vie aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, ou à quoi je souhaite dire oui à ma vie, ou j'espère un jour pouvoir dire oui, c'est quand on a un peu travaillé tous ces états-là qu'on peut, à un moment donné, donner sens à ce qui nous est arriver.
Okay.
Donc le sens, c'est pas quelque chose qui va tomber tout seul. C'est aussi un travail en soi de donner sens. Mais c'est important de donner sens. Si on regarde, par exemple, maintenant ce qui est arrivé avec le Covid, la pandémie, ça fait 2 ans, on est vraiment, normalement, dans une courbe de deuil à réaliser pour pouvoir rebâtir autre chose. Si je ne fais pas ce travail d'émotion, de rencontre des émotions, je ne vais pas prendre la mesure de ce qui s'est passé et de ce qui a été désacralisé dans le vivant, notamment dans toutes ces morts au début de la première vague, où il y a quelque chose qui a à voir avec le sacré de la vie qui a été complètement oublié. Si je ne fais pas ce travail émotionnel de rencontre avec ce qui a été vécu, eh bien, je vais faire ce qu'on nous propose aujourd'hui, retourner tout simplement à la vie d'avant. Retourner à la vie d'avant, pour moi, c'est insupportable. Parce que ça priverait tous ces vécus douloureux de sens. Le sens, il est de l'autre côté. Le sens, il est sur l'autre rive. Le sens, il sera dans ce qu'on construira en tenant compte de ce qui a été vécu. Il est là-bas, le sens. C'est une construction, mais qui ne peut advenir que si on tient compte de ce qui a été vécu. Or, de nouveau, dans notre société aujourd'hui, on refuse tellement la perte et le deuil qu'on nous propose de remonter à la vie d'avant, comme si rien ne s'était passé.
Sans traverser justement ce fond. C'est...
Oui. Mmh. Oui, oui.
Et c'est là que la créativité est intéressante justement et qu'elle est importante de mobiliser pour recréer quelque chose de nouveau, pour recréer du sens.
Oui, tout à fait. La guérison, c'est créer un nouvel état de santé. Alors, pour moi, la créativité, c'est aussi un fil conducteur pour accueillir, exprimer, transformer les émotions. On ne nous apprend pas qu'est-ce que je fais avec une émotion. Oui, ok, je l'écoute, mais qu'est-ce que j'en fais ? Prendre le temps par l'écriture créative, le dessin créatif, le collage, mais vraiment mettre en place de véritables processus de créativité, pas uniquement de la créativité dans notre tête. Hein. La créativité, c'est quelque chose qui vient dans la matière, là où aussi, dans notre société, on est beaucoup dans le virtuel, les liens virtuels, les images imposées à la télévision, etc. Retravailler concrètement avec ses mains des temps d'écriture, de dessin, de collage, par exemple, sur des thématiques bien particulières, pour accueillir, exprimer, transformer les émotions, ça vient relancer le processus vivant en soi.
Mmh. Oui, c'est ce que tu proposes, et c'est ce que les personnes qui sont formées à l'accompagnement du journal du burn-out, à l'accompagnement du burn-out, journal créatif du burn-out propose,
ouais, tout à fait. Oui. Et il faut oser ces petites choses qui sont réalisées avec les mains parce que ça vient vraiment nous impacter.
Ah oui, je l'ai vécu moi personnellement et c'est sûr que ça nourrit très fort. Ouais. Ça nourrit très fort.
Ça fait partie du progrès subtil qui généralement est arrêté. On a arrêté de dessiner, de coller, d'imaginer que travailler de cette manière-là notre pensée ou nos émotions. Ça ne servait pas à une société économique. Donc, généralement, en 6-7 ans, on arrête d'apprendre ça. Et on doit le réapprendre. Alors, parfois, c'est compliqué même pour les personnes en burn-out parce qu'elles se disent, oui, est-ce que la guérison du burn-out passe par de l'infantilisation ? Ça n'a rien à voir avec l'infantilisation. Ça a vraiment à voir avec des temps de présence à soi où je vais mettre ma pensée en mouvement, mais mes mains aussi en mouvement, et je vais projeter et je vais commencer à emprunter ce qu'on appelle la voie de l'imaginaire. Parce que ça, c'est aussi une des voies de guérison, c'est de quitter parfois la voie du rationnel qui est trop réductrice pour oser passer dans des états de conscience modifiés, dans la voie de l'imaginaire, dans la rencontre avec des images, avec des symboles, pour se décaler d'une situation souffrante et laisser une autre analyse apparaître, une autre réalité apparaître, et peut-être une autre vérité pour soi-même apparaître aussi.
Intéressant. Non, mais c'est gai. Moi, depuis que j'ai découvert le journal créatif, j'adore ça. C'est, comme tu disais, ça participe activement à mon équilibre psychique, à mon hygiène psychique. J'avais encore une petite question à te poser. En quoi est-ce que le burn-out peut être le point de départ d'un chemin de reliance à soi et au monde ?
Alors, certainement, quand toutes les pratiques dont je t'ai parlé, la méditation, la tenue d'un journal, c'est clairement un chemin de reliance à soi. La plupart du temps, quand au début d'un accompagnement, une personne en épuisement, on va nommer l'incendie du burn-out qui est venu tout brûler, et puis le paradoxe que la guérison, ce sera rallumer la flamme. mais la flamme qui anime la vie. Et les personnes ont perdu le sens de cette flamme. Si on demande, vous, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui anime cette flamme ? Et les personnes ne savent plus. Elles ont été tellement déconnectées d'elles-mêmes qu'elles ne savent plus ce qui génère de la joie chez elles, ce qui génère de l'enthousiasme, ce qui génère de l'énergie vitale. Eh bien, ça va aussi être le chemin que de retrouver cette reliance à soi pour aller retrouver parfois nos rêves qu'on a abandonnés sur le bord du chemin, retrouver ce qui nous anime, ce qui nous met en enthousiasme. Ça, c'est le premier travail. Et puis, de se dire à un moment donné, parce que quand on rencontre cet endroit-là avec soi, bah, très vite, on se rend compte que c'est fait aussi de reliance à l'autre, à la nature, au monde, aux animaux. Parce qu'en fait, plus on va à l'intérieur de soi et plus on réalise, on déconstruit la tour, hein, on réalise qu'en fait, on fait partie d'un plus vaste. Et que ce plus vaste, je n'ai pas à l'exploiter et à le consommer, mais j'ai à travailler en bonne intelligence et en équilibre avec lui. Mmh. C'est rétablir un juste contrat avec notre nature intérieure, mais avec la nature à l'extérieur, avec les humains à l'extérieur et avec la planète, etc. etc.
Oui, ainsi peut-être prendre plus une place juste, ou en tout cas en cohérence avec nos valeurs, qui a du sens pour nous, et ainsi contribuer à créer un monde plus respectueux des ressources du vivant.
Tout à fait, parce que te dire aussi que la guérison du burn-out, c'est au moment où on revient s'exprimer dans le monde. Alors on ne retourne peut-être pas à l'ancien travail, mais on ose revenir participer au monde. Mm-hmm. Mais on a négocié, ou on a travaillé, on a clarifié comment on voulait participer à ce monde-là. Et donc là, une fois qu'on a retrouvé la reliance avec soi-même, on peut travailler la reliance au monde extérieur. Alors pour certains, ça va être des tout petits pas en gardant le même emploi qu'avant, parce que c'est la réalité de tout un chacun. Et pour d'autres, ça va être des gros changements.
Mmh. Super. Ben écoute, c'est vraiment... Merci pour cet échange, parce que je trouve ça vraiment super inspirant, super enrichissant. Cet appel de la vie en nous, comme tu dis, voilà, j'avais envie, pour clôturer cet échange, de lire un petit passage de l'introduction du livre de Anne Evrard, Le guide du burn-out. C'est, Thierry Janssen qui a fait sa préface, et j'avais envie de vous lire quelques lignes. Donc, Thierry Janssen, il dit ceci. Le burn-out est une crise de vie, et comme toutes les crises, il est l'occasion d'un choix. Le choix de lâcher prise, d'arrêter la course folle dans laquelle on est engagé et d'enfin se poser, se déposer et se reposer. Le choix de comprendre que cet épuisement est un appel de la vie en nous. Le choix de croire que l'on peut exister sans devoir renoncer à la paix, à la détente et à l'amour qui sont essentiels pour rester pleinement vivant. Le choix de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer comme on est. Le choix de prendre soin de sa nature profonde et sensible. Le choix de vivre autrement, plus doucement et plus simplement. Le choix d'être patient. Car il faut du temps pour que les réserves d'énergie se reconstituent, pour que de nouveaux désirs surgissent et pour que de nouvelles orientations se dessinent à l'horizon. Oui, il faut du temps. Alors voilà pour le joli texte de Thierry Janssen. Pour le reste, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.helenelaviolette.com. J'ai la chance d'être formée au journal créatif du burn-out avec Nathalie Hanno. Sur mon site, vous trouverez toutes les actualités pour les prochains ateliers et les prochains cycles d'accompagnement du burn-out avec le journal créatif. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et sur YouTube, en tapant Hélène Laviolette, vous aurez accès à des contenus gratuits, des exercices de journal créatif dans lesquels j'aborde différentes thématiques. Pour ce qui est du travail de Nathalie Hanno, vous pouvez vous rendre sur son site internet Art et Moi, www.art-emoi.be. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer cette rencontre ?
Que j'adore ce texte de Thierry Janssen. Et merci, Hélène.
Merci à toi.
Pour cette belle rencontre.
Merci, Nathalie. Merci beaucoup.